Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer et au menu aujourd'hui, l'info du jour, l'inauguration à venir du nouveau pôle associatif du Polyblone à Rennes. Compte rendu du conseil municipal du lundi 9 octobre à la ville de Rennes, il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview de Simon Cotin-Marx, sociologue et invité d'une rencontre à la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne pour parler des risques et plaisirs du monde associatif et puis recommandations, les portes ouvertes de la Croix-Rouge Bienvenue dans l'arène. Alors hier et aujourd'hui, je commence l'émission en vous présentant nos deux volontaires en service civique. Je leur ai demandé de se présenter façon questionnaire de Proust, une façon de vous présenter ceux que vous entendrez dans les émissions de Canal B jusqu'en mai 2024, et puis de leur permettre aussi de s'initier au montage radio. Après Corentin, place au billet de Léonard Tirel, en mission aux côtés de Morgane, notre chargée d'éducation aux médias à Canal B.
Auditeurs et auditrices de Canal B, bonjour. Si aujourd'hui ma voix vous est totalement étrangère, n'ayez crainte, cela est totalement normal. Mon nom est Léonard Tirel, et je suis l'un des deux nouveaux services civiques qu'accueille Canal B pour cette année. Afin de nous présenter à vous et de mieux nous connaître, l'équipe de la radio nous a mis au défi de réaliser un jeu de questions-réponses instinctifs nommé le questionnaire de Proust. Alors, êtes-vous prêt à rentrer pour quelques minutes dans mon monde ?
Ok, let's go !
À la question, si tu étais une ambiance sonore dans laquelle tu te sens bien, je répondrai à la fois le calme qu'apporte le bruit des vagues qui glissent sur le sable lors de mes siestes ensoleillées. Ou alors, le son des discussions qui se mélangent entre elles en terrasse d'un bar lors de moments entre amis. Si j'étais une passion, le sport passerait loin devant mes autres activités. En tant qu'acteur ou spectateur, les émotions qu'il me procure sont inégalables. Le bruit de la foule laissera toujours un sourire sur mon visage. Baignant dedans depuis tout petit, j'ai pu découvrir de nombreuses disciplines. Du judo au rugby, en passant par la natation, c'est dans le football que je me suis épanoui. Ce ballon rond, qui reflète les bons, tout comme les mauvais côtés de notre société actuelle, m'a fait ressentir tant de bonheur que je deviens nostalgique de ces moments à ses côtés. Du souvenir de chants repris par plus de 75 000 supporters dans le mythique San Siro, aux côtés de mes meilleurs amis, en passant par les matchs sous la pluie le samedi matin, toujours accompagné par mon père, le football m'aura appris le dépassement de soi, le partage, ainsi que l'humilité. Malgré moi, si j'étais une émotion, je serais la nostalgie. Si j'étais un album de musique, je vous dirais Tristesse Business saison 1 du rappeur Luigi, un projet marquant pour moi, au point de finir tatoué sur mon avant-bras.
Voilà l'heure humaine. L'heure humaine.
Toujours côté musical, les quelques notes entendues au début de ma prise de parole sont l'introduction du titre BDE, Best Day Ever, du regretté Mac Miller. Un son qui, grâce à ces quelques notes, me transporte dans mon quotidien. Attaché à elle, je pense que mon idée du bonheur serait un repas ou bien un moment de partage avec ma famille, car comme Alsan l'a si bien dit,
une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue.
Dans la vie de tous les jours, mon point fort serait l'autonomie et mon point faible serait la méfiance envers les autres. En rejoignant Canal B cette année, mon état d'esprit actuel serait lié à l'apprentissage et la curiosité. Et pour finir, si j'étais une recommandation musicale, je serai le dernier album de l'artiste bruxellois Chrissy, nommé Euphoria, à écouter d'une traite et sans modération.
Dis-moi où ce que tu trouves, dis-moi ce que c'est l'amour, mon cœur qui fait un tour, y'a mes heures qui comptent mes jours, combien de temps encore tu feras du cinéma, yeah. Combien de temps encore tu me feras du mal, yeah. Tu connais ma vie, mes qualités, mes défauts. Prends le temps de sortir de ton plot, yeah. J'ai pas encore ma place, donc je travaille tous les jours pour que la joie m'en lasse. Que veux-tu que je fasse? Je baisserai jamais les bras, même si les temps sont durs. Mais je crois en cette lumière et j'avance peu importe ce que me réserve la terre.
C'était Léonard, volontaire en service civique à Canal B. Et après cette présentation, on passe à l'info du jour que j'ai retenu pour vous. Je vous avais déjà présenté début septembre le nouvel équipement du Poly Blône, un pôle associatif dans le quartier du Blône qui va abriter plusieurs acteurs et activités sur un espace au total de 1800 mètres carrés. Depuis le mois de septembre, trois associations y résident de façon permanente. Il y a la Maison des Squares qui gère et anime l'équipement, Do In It, plutôt branché hip-hop et qui a ses studios d'enregistrement sur place, et puis l'association communautaire Armor. D'autres associations, mais aussi habitants, jeunes et familles, vont pouvoir évoluer dans ce lieu qui abrite une cuisine, une cafétéria, des espaces de convivialité, de créativité, mais aussi d'exposition, de sport ou encore dédiés au numérique. Samedi 14 octobre, à partir de 11h30 et puis jusqu'en soirée, ce sera le moment de l'inauguration de ce lieu. Rendez-vous au 1 boulevard de Yougoslavie à Rennes pour d'abord des prises de parole officielles, un buffet servi par la ville de Rennes, et puis dès 14h, des activités pour tous les âges, des visites guidées, mais j'ai aussi noté la projection d'un documentaire sur le lieu précédent qui s'appelait La baraque, et projection qui sera accompagnée d'une discussion avec la réalisatrice Lucie Vivet et le sociologue Mohamed Wadan. À 18h30, la journée se terminera avec un apéro-concert préparé par les habitants et en compagnie de la fanfare volcanique. Pour plus d'infos sur ce temps d'inauguration du Poly Blône, il y a le site internet maisondesquares.org. Et après cette info du jour, on poursuit avec une chronique. Et c'est la traditionnelle chronique de retour sur le conseil municipal là, du lundi 9 octobre. Une séance qui s'est déroulée en présence des 61 conseillers et conseillères municipaux de la ville de Rennes. Comme à chaque fois, ça se passe à l'hôtel de ville à partir de 17h. 50 points étaient inscrits à l'ordre du jour pour une séance qui a duré près de 5 heures. Après un mot de la maire Nathalie Appéré pour dénoncer la violence de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, début de séance avec, comme toujours, une parole laissée aux habitants. Des parents d'élèves de l'école Château-Giron-Landry ont pris le micro pour exprimer leurs inquiétudes sur la démarche en cours de reconstruction de la carte scolaire. Une démarche portée par le département d'Ille-et-Vilaine et l'option envisagée pour la rentrée 2024, c'est une montée dite alternée des nouveaux collégiens. Une année vers le collège des Hautes-Ourmes, une année vers celui du Landry, qui est plus proche de cette école élémentaire Château-Giron-Landry. Un choix qui semble peu judicieux pour le collectif présent.
De notre point de vue, le bien-être de l'enfant passe par la solution la plus simple, en termes de proximité et de mobilité. En effet, nous pouvons nous interroger par rapport au temps de trajet. Les deux établissements aujourd'hui sont éloignés de 2100 mètres, et c'est d'autant plus de distance à parcourir pour nos enfants depuis leur domicile, avec leur lourd cartable. La multiplication par deux, voire par trois, du temps de trajet pour aller au collège, c'est la fatigue en plus, mais aussi, pour beaucoup, l'impossibilité de prendre le repas du midi à domicile. Notons aussi l'impact environnemental. Les éléments avancés précédemment nous font penser que le nombre de parents qui déposeront leur enfant en voiture risque d'exploser, ce qui nous semble contraire à la politique sur les mobilités douces menée par la ville. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, nous ne souhaitons pas la dégradation des conditions d'enseignement. Le projet de montée alternée indique que le collège du Landry devra absorber les effectifs de 6e du collège des Hautes-Ourmes, en plus de ses effectifs habituels à la rentrée 2024. Au collège des Hautes-Ourmes, notre crainte est que l'augmentation de l'IPS des Hautes-Ourmes,
c'est l'indice de position sociale,
l'empêche de bénéficier des avantages du réseau REP. On aurait donc une réduction des moyens et une augmentation du nombre d'élèves par classe, soit une dégradation des conditions d'enseignement. Enfin, la mise en place de cette alternance causera d'autres impacts, comme la séparation des fratries scolarisées en collège, les différences de traitement scolaire car les options ne sont pas les mêmes dans les deux collèges, des répercussions importantes sur l'organisation familiale, des pauses, trajets et des horaires différents.
Le conseil municipal comporte ensuite un temps laissé aux groupes politiques pour prendre la parole, sous forme de tribune, sur des sujets locaux, nationaux, parfois internationaux. Il a là été question évidemment du conflit israélo-palestinien, de jeunesse ou encore de qualité de vie à Rennes. J'en profite pour les citer, ces groupes politiques. Le groupe socialiste qui, avec le groupe écologiste Génération, le mouvement radical et le groupe communiste forment la majorité. Dans l'opposition, on retrouve le groupe Renaissance révélé Rennes et le groupe d'Union de la droite libre d'agir pour Rennes. Point numéro 1 de la séance, il s'agissait d'un vote sur un pacte d'insertion dans le champ de l'emploi. La gestion du RSA, le revenu de solidarité active, est une compétence du département, mais qui depuis 2009 délègue cette mission à la ville de Rennes. Le nouveau pacte, une sorte de feuille de route, couvre la période 2023-2028 et vise le public des près de 10 000 allocataires du RSA à Rennes. Il représente 40% des allocataires du département. Plusieurs objectifs ont été détaillés par Cécile Papillon, déléguée à l'insertion et à l'emploi.
Donc l'ambition numéro 1, prévenir des droits pour toutes et tous. La prévention de la pauvreté repose sur plusieurs axes, et notamment la lutte contre le non-recours aux droits et le maintien des droits sociaux, qui est au cœur de nos priorités. Il est communément admis que le taux de non-recours au RSA s'élève à 30%. Et face à ce constat, notre ville a candidaté pour expérimenter le territoire zéro non-recours qui débutera en janvier 2024 à Maurepas. Les autres axes sont la qualité du parcours de l'usager que nous souhaitons sans couture. En fait, le parcours sans couture, c'est un accompagnement qui est fluide, qui évite les ruptures de droits, notamment lorsque les personnes doivent s'adresser à différents services publics. Et c'est pourquoi le CCAS de Rennes mène à cet effet un important travail en partenariat avec les acteurs de l'insertion, qu'il s'agisse des collectivités, des administrations ou des associations. Une autre ambition, c'est l'ambition numéro 2, accompagner des parcours sur mesure en faveur de l'insertion professionnelle. Enfin, et donc c'est notre ambition numéro 3, favoriser l'émancipation pour des parcours de citoyennes et citoyens. Nous considérons évidemment que les allocataires du RSA sont avant tout des citoyens et des citoyennes. Ils sont acteurs de leur parcours d'insertion et le rôle des professionnels du CCS est de faciliter ce parcours. De plus, le nouveau pacte rennais d'insertion innove en intégrant l'enjeu central qu'est le dérèglement climatique.
Le groupe politique Renaissance révélé Rennes, à travers la voix de la conseillère Carole Gandon, en a profité pour défendre les 15 heures d'activité obligatoire en contrepartie du revenu de solidarité active, un engagement du gouvernement que ne souhaite pas suivre le département d'Ille-et-Vilaine. Pour être précis, on continue à dérouler l'ordre du jour de ce conseil municipal avec un point numéro 2 consacré à la restructuration et à l'extension de l'école maternelle Guyenne. On est dans le quartier Villejean, l'école maternelle mais aussi son restaurant scolaire, avec une enveloppe de 6,6 millions d'euros qui va permettre de financer des travaux qui débuteront en début d'année prochaine et sur une durée de 20 mois. Un déménagement provisoire a donc déjà eu lieu au mois de septembre vers le site Malifeux, toujours dans le quartier Villejean. L'extension de la maternelle prévoit entre autres la pose de panneaux photovoltaïques et l'utilisation d'isolants et de matériaux biosourcés. On reste dans le dossier éducation avec le vote d'un référentiel pour les cours d'école. Le constat, c'est que les cours sont trop minérales et devenus inadaptés dans un contexte de changement climatique. Minérales et inégalitaires, avec des filles souvent reléguées aux périphéries des cours. Détail des deux référentiels mis au vote pour les cours d'école, mais aussi pour les aires de jeu et à destination des services techniques de la ville. Vous allez entendre pour cela la voix de Gaëlle Rougier, adjointe déléguée à l'éducation.
Alors concrètement, la ville est dotée de 385 000 m² de cours répartis sur 87 écoles. Sur ces 87 cours, toutes ne sont pas au même niveau de végétalisation. Effectivement, nous avons l'ambition de végétaliser 6 000 m² de cours chaque année, soit l'équivalent de deux ou trois cours qui sont renaturés. Et ça peut paraître effectivement peu par rapport à l'ensemble des mètres carrés qui existent. mais toutes les cours d'école donc ne sont pas au même niveau, au même degré de végétalisation. Et les services jardins et biodiversité ont effectué un classement et un ordre de priorisation. Le principe d'intervention est simple, c'est tout végétaliser sauf. C'est-à-dire que chaque espace qui ne donne pas lieu à une végétalisation doit être justifié, soit par un usage pédagogique, soit pour des raisons de sécurité, de circulation, d'accès aux bâtiments, d'entretien, etc. Voici les indicateurs que nous devons améliorer, pour lesquels nous posons une exigence de résultat. D'abord, un coefficient de couvert arboré ou de canopée égal ou supérieur à 30%, puisque ce n'est pas tant la végétation au sol qui est importante pour l'effet aussi îlot de fraîcheur, mais bien le couvert arboré à terme. Une gestion totale des eaux pluviales à la parcelle, donc ça peut paraître un peu technique, mais c'est l'idée que quand il pleut, l'eau retourne au milieu, retourne à la terre et aux arbres et ne part pas dans le réseau des eaux usées. Et pour ce faire, il faut au moins 50% d'espace végétalisé. Et enfin, un réemploi de matériaux d'au moins 60%. Après, nous verrons qu'il y a des mobiliers, des pavements, des assises qui sont pour 60%, qui font l'objet pour 60% de récupération.
Bon alors, je vous le dis en passant, j'ai découvert avec le point numéro 14 l'existence d'un syndicat intercommunal du Golfe dans l'agglomération rennaise, le CIGAR, pour lequel un rapport d'activité a été présenté avec le commentaire de l'écologiste Laurent Hamon sur son souhait de plus de transparence et de responsabilité environnementale de la part de ce syndicat sur lequel je vais m'informer et pourquoi pas vous proposer un sujet puisque je n'en avais jamais entendu parler. Autre sujet qui avait déjà été évoqué lors d'un précédent conseil municipal, ce sont les points numéro 20 et 21 sur l'évolution du contrôle de stationnement à Rennes. Alors il faut commencer par dire qu'à partir du 1er janvier 2024, une brigade anti-incivilité va être lancée à Rennes. 14 agents actuellement chargés de la surveillance de la voie publique seront redéployés sur ces nouvelles missions. Les opérations de contrôle et de gestion des recours du stationnement payant seront donc confiées à la société publique locale Citédia Métropole, et en plus de contrôle humain, des véhicules équipés d'un système LAPI vont être utilisés, LAPI pour lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et il faut le dire, ces pré-contrôles sont ensuite validés par des agents humains. Pour les usagers bénéficiaires d'un tarif spécifique ou d'une gratuité, ils sont a priori de plus en plus nombreux sur décision de la ville, une démarche d'enregistrement sera possible à partir du 4 décembre. La réaction de Nicolas Boucher, issu du groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes.
Nous sommes pour ce choix de la gratuité pour les personnes professionnelles de santé et les auxiliaires de vie sociale également. Donc j'apprends que Rennes sera la première ville à le permettre. Nous observons que cette délibération consacre cependant une réalité, peut-être plus pour la partie médecins et infirmiers, c'est que ces professionnels circulent pour beaucoup en voiture. Alors, face à la politique de la suppression des places en aérien, en ville et dans les quartiers, face à la chasse organisée contre la voiture, nous craignons qu'à moyen terme, la gratuité ne leur convienne plus, si en fait il n'y a plus de place pour stationner. Preuve en est également, nous rappelons une triste réalité, les artisans sont de plus en plus nombreux à refuser d'intervenir à Rennes, et pire encore dans le centre-ville de Rennes. Ce qui, pour le consommateur, a pour effet, dans un premier temps, la réduction de l'offre concurrentielle et, à terme, de ne plus trouver d'artisans du tout. Toujours sur le volet artisan, nous vous soumettons également l'extension de gratuité pour les interventions d'artisans en urgence, comme par exemple pour une intervention de plomberie en urgence. Les modalités resteraient bien sûr à être définies tant sur le cadre d'urgence ou que sur le contrôle et les déclarations d'urgence. Merci.
C'était Nicolas Boucher du groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes. On poursuit avec le point numéro 33 sur des travaux dans le centre ancien qui a été l'occasion pour l'autre groupe d'opposition, le groupe Renaissance à révéler Rennes, de parler de son inquiétude sur l'avenir de la chapelle Saint-Yves. La possibilité d'une vente de ce bâtiment gothique flamboyant serait évoquée par la municipalité. On écoute la conseillère municipale Carole Gandon.
Votre politique patrimoniale est déroutante. En tant que ville d'art et d'histoire, Rennes a des obligations vis-à-vis de son patrimoine. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un tel bâtiment historique pour de mauvaises raisons, probablement financières. Par ailleurs, on vient d'apprendre que vous achetez la tour Duchesne sur les remparts, autre bâtiment remarquable qui appartient, comme la chapelle Saint-Yves, à l'ensemble patrimonial médiéval de Rennes. C'est totalement contradictoire. Nous sommes persuadés qu'il existe des solutions pour trouver une nouvelle affectation à ce monument, convention avec d'autres collectivités locales, mécénat, sans être obligé de le vendre au secteur privé. Car une fois vendu, on ne pourra plus maîtriser le devenir du bâtiment et on pourrait à terme le regretter.
Alors la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a répondu à Carole Gondon avec un rappel des chantiers de rénovation patrimoniale en cours et expliqué que la vente et donc la privatisation, si elles avaient lieu, pouvaient quand même arriver avec sauvegarde du patrimoine, à l'image de la rénovation en cours des immeubles du centre ancien qui sont bien privés, en sachant que de toute façon, l'idée d'une vente n'était pas arrêtée pour le moment. On termine avec le point numéro 41, un vœu prononcé par la majorité sur le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée, un dispositif dont on a déjà parlé à maintes reprises dans l'émission d'Info Locale, qui est notamment déployé dans le quartier du Blône et puis bientôt à Maurepa, qui vise en fait un retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Malheureusement, la baisse annoncée des financements de l'État met ce dispositif en péril. À Rennes, le manque à gagner est évalué à environ 20 000 euros par an. Une pétition est d'ores et déjà en ligne sur le sujet. Il faut aller sur la plateforme change.org. Et puis une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale le 24 octobre prochain. Le groupe Renaissance Révéler Rennes vote contre ce vœu et défend, ça s'entend, la politique du gouvernement à ce sujet. Extrait de la prise de parole de Carole Gondon, toujours elle, conseillère municipale de l'opposition.
Sur la question de ce dispositif qui est certes vertueux mais extrêmement coûteux, ce que je veux simplement ajouter, c'est que il est irréaliste et il est irraisonnable de penser qu'il peut se déployer dans l'ensemble des territoires. Donc c'est de la bonne gestion que évidemment de le circonscrire à des territoires où il y a un tissu économique qui est peu dense. Il ne pourra de toute façon pas se déployer.
Donc vous voterez contre ce vœu.
Et par ailleurs, sur la RSA, je veux juste rebondir là-dessus.
Nous avons bien compris que vous voteriez contre ce vœu.
Une dernière remarque. C'est que c'est une expérimentation par définition et que les départements aujourd'hui sont en train de faire remonter les difficultés, et ça a été dit, sur le nombre d'heures et le volume d'heures qui reste encore une fois une cible. Donc oui, quand vous affirmez que 15 à 20 heures, c'est un système qui est coercitif, que c'est une contrainte et qu'il y aura des sanctions à la clé, eh bien non, vous le savez bien, en fait, dans le cadre de cette expérimentation, ces modèles-là sont testés, donc ce n'est pas vrai, c'est faux.
Donc
de dire
vous allez voter contre ce vœu, on a bien
oui,
compris,
nous
et nous allons passer
mais qu'on
ne au vote.
Pas dire ce que je n'ai
nous
fait.
Allons passer au vote.
La séance est terminée donc après 5 heures de débat et de vote, des séances qui sont à retrouver en replay sur le site métropole.rennes.fr. Prochaine date de conseil, ce sera le lundi 4 décembre, toujours à partir de 17h.
Mm-hmm. voodoo working. Yes, your voodoo working.
Voodoo working. Is your voodoo working?
It's Your Voodoo Working sur Canal B, interprété par Jim Jones All Stars, et puis en featuring avec Nikki Hill. C'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et à retrouver sur un premier album Ain't No Peril, attendu pour le 10 novembre chez Acolyte Records. C'est le premier album de la nouvelle formation du Britannique Jim Jones que vous venez d'entendre dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B, soit branchée sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr. Allez, on continue avec l'interview du jour. Simon Cotin-Marx, bonjour.
Bonjour.
Alors je le dis déjà, il s'agit d'une interview qui est enregistrée juste avant une rencontre qui est organisée par la MSHB, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, installée à Rennes, et qui va parler lors d'une rencontre des travers du monde associatif. Alors un monde associatif, s'il faut le redire, qu'on retrouve mobilisé dans plein de domaines, de la perte d'autonomie au soutien à la vie hospitalière, au champ caritatif, à l'enseignement et la recherche, mais aussi particulièrement en Bretagne dans le sport et la culture. Vous, Simon, vous êtes enseignant-chercheur en sociologie à Paris, chercheur associé au laboratoire technique, territoire et société de Paris-Est. Et alors déjà au moment du doctorat, vous vous êtes tourné vers ce sujet du monde associatif à travers un dispositif au nom mystérieux, le DLA, qui s'est développé dans les associations depuis les années 2000. Comment vous est venu cet intérêt ? Expliquez-nous.
Oui, alors le DLA, déjà, c'est une politique publique d'aide à l'emploi qui est créée par l'État, par le ministère du Travail. Et en gros, c'est l'État qui offre du conseil en gestion aux associations qui sont employeuses de moins de 50 salariés. Alors si je me suis intéressé à ça, c'est que j'ai eu une expérience personnelle, professionnelle, plus ou moins malheureuse, en tout cas heureuse parce qu'elle m'a donné envie de faire de la recherche. Moi, j'étais salarié associatif. Voilà, et bon, j'étais mal payé, mais mon organisation du travail était assez déplorable. Hein. Mon bureau n'était pas chauffé en plein hiver, par exemple. Mon ordinateur ne fonctionnait pas. Puis, mon employeur, mon chef, finalement, avait un peu du mal à me donner des consignes. Et du coup, je me suis demandé si cette situation, un petit peu, où le travail n'est pas pensé, n'est pas organisé, c'était quelque chose de récurrent ou c'était quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Et du coup, j'ai étudié le DLA, ce que ça me semblait être une réponse, quoi, offrir du conseil en gestion aux associations employeuses, qui sont dirigées par des bénévoles. Je trouvais ça plutôt intéressant.
Une fois la thèse en poche, vous avez publié 3 années plus tard une sociologie du monde associatif en 2019 aux éditions La Découverte, dans une collection de petits livres assez facilement identifiables avec un code couleur un peu vert en bas du livre. Cette sociologie du monde associatif, c'était un travail de décryptage d'un milieu qu'on peut qualifier comme très diversifié, mais qui est quand même devenu au fil des années un acteur à part entière de l'économie.
Oui, le monde associatif, déjà, c'est très divers. Ça concerne, vous l'avez dit en introduction, des secteurs qui sont extrêmement différents, le secteur sanitaire, social, médico-social, le sport, la culture, la jeunesse, l'animation, j'en passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez énorme. Chaque année se crée entre 60 et 70 000 associations. Donc c'est aussi très dynamique et on considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million d'associations qui sont actives et 150 000 associations employeuses. Et dans le repère, c'est un repère, c'est une sorte de petit manuel universitaire. Je reviens sur ce que sont les associations, leur histoire, et puis après des grandes questions. Et ces grandes questions, c'est le rapport au bénévolat, le rapport au pouvoir public et la question du travail.
Puisqu'en plus des salariés, les associations vivent avec beaucoup de bénévoles, aussi des volontaires en service civique. Ça fait quelques années que c'est très développé dans le milieu associatif. Est-ce qu'il y a des champs surreprésentés parmi ceux que j'ai évoqués, la culture, le sport, je crois que le secteur médico-social emploie beaucoup de salariés pour le coup en associatif.
Oui, alors le monde associatif il est très divers, mais il est assez inégal. Au total, on considère qu'il y a le budget total du monde associatif, c'est 110 milliards d'euros, et la moitié est concentrée dans le secteur sanitaire et social. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Ça va être tout le travail social avec les personnes handicapées, mais aussi les cliniques, parce qu'il y a beaucoup de cliniques qui sont associatives, et après il y a tout le champ médico-social, hein, l'aide à la personne, l'aide à domicile, voilà, qui est très important, qui emploie, ces trois branches-là emploient 900 000 personnes, sur un total d'1,8 à 2 millions de salariés.
Les associations, dans leur forme actuelle, elles sont placées sous le cadre de la loi 1901. Elles existaient déjà avant sous une autre forme ?
Oui, alors les associations, évidemment, le fait de s'associer, en fait, ça existe depuis très longtemps, depuis toujours. On peut remonter à l'Antiquité, il y avait des formes, il y avait des guildes, voilà. Après, la forme associative moderne, elle est née du mouvement ouvrier, puis des mouvements chrétiens plutôt progressistes. Du 19e siècle, quoi. Les gens s'organisaient, mais c'est surtout, on dit que le creuset, hein, enfin, là d'où vient l'association, c'est les associations ouvrières. Hein. Les associations ouvrières, c'était pas simplement des associations au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était aussi des syndicats, c'était aussi des mutuelles, c'était aussi parfois des coopératives, c'est-à-dire des lieux où on produisait, hein, produisait des choses. Et c'était un long combat, suite de faire reconnaître le droit d'associer, donc qui est devenu la loi 1901, qui a été fait voter par Waldeck Rousseau. Mais il y a des grandes associations qui ont pris naissance auparavant, comme la Ligue d'enseignement, par exemple, qui est assez connue, qui a plus de 120 ans. Voilà, sauf qu'à l'époque, avant 1901, elles étaient ou illégales ou autorisées par le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, on a le droit de s'associer. Hein, c'est une loi importante, la loi de 1901. C'est une loi de liberté. Il suffit d'être deux, d'avoir un projet autre que de distribuer des bénéfices. Et voilà, et on peut créer une association.
La Ligue de l'enseignement, qui est une association d'éducation populaire, qui a notamment une antenne ici en Ille-et-Vilaine. Alors, l'ouvrage le plus conséquent que vous avez écrit, c'est un livre sorti en 2021 aux éditions de l'Atelier. C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif. On le comprend avec le titre, il y a question de l'engagement des travailleurs du monde associatif, surtout salariés, mais les bénévoles aussi sont pris dans ces questions, parce qu'on n'est pas là pour faire du profit. C'est le cas de toutes les associations ?
Oui, c'est un principe juridique. Hein. Les associations sont non lucratives, elles n'ont pas le droit de partager les bénéfices, donc oui, c'est bien le cas.
Comment est-ce qu'on peut décrire votre enquête sociologique qui a été menée pour cet ouvrage « C'est pour la bonne cause », on redonne son titre. Vous êtes allé sur quel territoire, à la rencontre de quelle personne, et puis avec quelle méthode d'enquête ?
Oui, alors déjà, la question que je me posais, c'était pourquoi on trouve des conditions de travail qui sont moins bonnes dans le monde associatif que dans le monde privé lucratif ou que dans le secteur public. Alors pour répondre à cette question, bah évidemment, je me suis appuyé sur les travaux théoriques qui ont été faits auparavant, puis après, j'ai fait une enquête de terrain. Donc je suis allé voir surtout des petites associations employeuses, hein, de moins de 50 salariés, et ça, je suis allé voir de manière transversale, aussi bien des salariés que des employeurs. J'ai interrogé tout le monde pour essayer de comprendre quelles étaient les spécificités, hein, du travail associatif et pourquoi on avait un emploi qui était un peu plus atypique qu'ailleurs.
Votre constat principal, c'est donc que les travailleurs du monde associatif sont engagés dans leur mission, et cet engagement, c'est quand même un peu un argument, le fait d'avoir un boulot qui a du sens, qui est détaché d'une logique productiviste, utilisé pour relativiser des conditions de travail qu'on peut décrire comme précaires. Le mot, il n'est pas trop fort.
Non, dire que les conditions de travail dans le monde associatif sont précaires, non, c'est pas trop fort, hein, puisque contrairement au secteur, enfin, privé, où les contrats sont en général, c'est des CDI, des contrats à durée indéterminée, voilà, c'est autour de 85% des gens qui sont employés sous ce type de contrat. Dans le secteur associatif, c'est plutôt le CDD qui est majoritaire, voilà, c'est la moitié des contrats sont en CDD. On constate aussi que les horaires atypiques, le travail le week-end sont plus développés qu'ailleurs. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les salaires sont plus bas. Et c'est cette question de l'engagement là qui vient quand on constate ça, c'est pourquoi finalement les gens vont travailler dans le monde associatif si on gagne moins qu'ailleurs pour le même métier ? Et une des réponses, elle se retrouve du côté de la cause, quoi. Les gens, ils sont finalement motivés, intrinsèquement motivés, on dit même, par la cause. Et par exemple, quand on regarde les cadres, les économistes, quand ils calculent la différence de salaire, les salaires sont environ 15% plus bas dans le secteur associatif que dans le secteur privé. Alors pourquoi ils acceptent ces emplois ? Bah, finalement, ils font don de leur travail, ils ont un salaire finalement symbolique, hein, le fait de travailler pour la Croix-Rouge, pour la Ligue de l'enseignement ou pour la radio au Canal B. Bah finalement, ça apporte de la satisfaction au travail qui vient compenser le manque à gagner monétaire. Donc ça, c'est assez important, même si ce n'est pas vrai pour tous les salariés. Hein. Plus on descend dans les hiérarchies, moins c'est vrai. Ça, il y a plusieurs enquêtes qui le montrent.
Dans la présentation de la rencontre à laquelle vous participez à la MSHB, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, je lis « Les associations oublieraient-elles de mettre en pratique avec leurs propres employés les valeurs qu'elles défendent plutôt qu'une volonté des employeurs ?» On le redit, qui sont des bénévoles à travers les conseils d'administration dans les associations. Est-ce que les conditions de travail, elles ne sont pas avant tout directement liées à la nature même des associations avec des budgets, et on en parle particulièrement en ce moment, qui sont très serrés ?
Oui, oui, vous avez raison. En fait, il y a un point interne. En fait, pour expliquer pourquoi les conditions de travail sont moins bonnes, on peut regarder en interne, et puis on voit les gens travaillent pour la cause. On a des employeurs bénévoles qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas forcément non plus envie d'être employeurs, enfin, faut le dire, hein, et qui ont du mal à assumer la fonction employeur. Voilà, donc ça pose des problèmes, mais ça n'explique pas pourquoi les contrats sont moins bons, pourquoi les salaires sont plus bas. Et pour le comprendre, il faut aller regarder du côté des financements, pourquoi les associations n'arrivent pas à payer des salaires plus correct pour aller vite. Et quand on regarde qui finance le monde associatif, c'est très largement la puissance publique. Les associations sont sur des secteurs d'intérêt général, mettent en œuvre des politiques publiques. Hein, c'est très clair pour le secteur social, sanitaire et médico-social. Enfin, c'est l'État hein, qui leur confie des missions, sauf que ces missions ne sont pas suffisamment financées. Comme il y a eu un gel du point d'indice dans la fonction publique depuis les années 2000, et ben il y a eu une sorte de gel du point d'indice des salariés associatifs. Donc les salaires ont marqué le pas, et il y a eu des grands mouvements sociaux là qui sont venus le rappeler, ou sinon une sorte de grande démission, on parle de grande démission, mais le secteur de l'animation socioculturelle ne trouve plus de salariés, le secteur du travail social ne trouve plus de salariés, le secteur sanitaire ne trouve plus d'infirmières et de médecins. Bon, voilà, ça s'explique parce qu'il y a un sous-financement, parce que depuis la crise de 2008 notamment, il y a eu un tassement finalement de l'argent public distribué aux associations.
Pour continuer un peu sur les conditions de travail décrites comme difficiles, on a parlé de niveaux de salaire qui sont faibles, d'horaires extensibles. Il y a aussi le risque de burn-out que vous avez observé revenir de façon récurrente dans les associations. Et alors ça, c'est une question que moi j'ai. On a parlé du secteur médico-social qui est en tout cas surreprésenté quand on regarde les personnes qui sont salariées dans le monde associatif. Est-ce que ce mal-être au travail, il peut aussi être lié au temps partiel imposé ou aux journées qui sont fractionnées particulièrement dans ce secteur?
Oui, évidemment, les associations, elles sont positionnées sur des secteurs d'emploi, des secteurs économiques où les conditions de travail sont souvent atypiques. Voilà, enfin, quand on travaille dans l'animation, il faut travailler le matin pour accueillir les enfants et le soir après l'école et en général le mercredi et pendant les vacances scolaires. Voilà, on voit bien que c'est la spécificité du secteur économique qui marque l'emploi et les associations sont souvent positionnées dans des secteurs où on a des conditions de travail qui sont atypiques et un peu difficiles. Après, sur la question du burn-out, en particulier, en étudiant les associations, j'ai remarqué quelque chose de très particulier et qui est lié notamment à la cause. C'est-à-dire que les gens, ils s'engagent pour la cause, pour un projet qui soit social, écologique, politique. Et souvent, cette cause, elle fait obstacle au fait qu'on puisse poser la question du travail, poser la question de ses propres conditions de travail. Donc c'est un peu psychologique, mais c'est-à-dire que si je prends du temps pour améliorer mes conditions de travail, si je demande une augmentation de salaire, c'est ce que je prends finalement aux personnes, aux bénéficiaires. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile pour les salariés, mais aussi d'ailleurs pour les employeurs, de poser cette question du travail et de la prendre en charge.
De trouver le temps et l'énergie pour se défendre soi-même. Quoi.
Voilà, déjà c'est difficile parce qu'on on prend du temps et de l'énergie aux autres, hein, aux bénéficiaires. Et en plus de ça, c'est difficile de trouver l'énergie parce que les associations, souvent, elles sont sur des sujets vraiment très graves. On peut penser par exemple au changement climatique. Voilà, elles sont un peu prises dans la machine. Il y a toujours des problèmes sociaux et des problèmes écologiques à prendre en charge. Quand on pense aux associations qui défendent les femmes qui sont victimes de violences conjugales, voilà, chaque jour, il y a des femmes qui viennent taper à leur porte et c'est difficile de s'arrêter, hein, de dire « Excusez-moi, aujourd'hui, on ne vous reçoit pas, on vous recevra demain parce qu'aujourd'hui, on parle de nos conditions de travail. » Non, c'est extrêmement difficile à cause de ça parce qu'il y a urgence, des urgences, et du coup, l'urgence prend le pas sur les conditions de travail des salariés.
C'est peut-être donc au conseil d'administration de faire le pas et de s'interroger sur la situation concrètement. Que peut ce patronat associatif, on le redit, un patronat qui est là bénévole, réuni dans des conseils d'administration, c'est parfois d'ailleurs difficile de trouver des candidats pour les rejoindre, ces CA.
Oui, ouais, tout à fait, c'est difficile parce que c'est vrai que ça n'amuse pas grand monde en fait d'être employeur. Hein. Et en général, quand les gens s'engagent pour prendre la tête d'une association, c'est pour porter un projet et pas pour devenir employeur, ça c'est très clair. Donc ça c'est un obstacle de plus. Après, qu'est-ce que peuvent faire les employeurs? Déjà, ils sont organisés en syndicats patronaux, syndicats d'employeurs. Et quand on regarde ce que font ces syndicats d'employeurs, finalement c'est qu'ils défendent très peu leurs salariés. Quoi. Ils ont rarement réclamé plus de financement pour améliorer les conditions de travail. Là, ils le font maintenant. Parce qu'il y a une petite perte d'attractivité de certains secteurs. Je pense notamment au secteur sanitaire et social là, qui est en crise totale. Et là, les employeurs commencent à demander un peu plus d'argent au pouvoir public. Mais sinon, en interne, il y a des choses déjà très simples qui peuvent être faites. Déjà, bon, c'est vrai que quand on regarde les ordres du jour des conseils d'administration ou même des assemblées générales, la question du travail, elle est rarement posée. Pourtant, la question de la gestion, elle occupe et je veux dire, elle emmerde hein, même les membres des conseils d'administration parce qu'on y passe beaucoup de temps, où trouver de l'argent et tout. Par contre, la question du travail et de l'organisation du travail, elle est rarement posée. Alors, en effet, on a vu, voilà, on est pris dans la machine à laver, on a peu de temps pour en parler, mais peut-être trouver des temps rien qu'une fois par an pour donner la parole aux salariés de l'association, leur donner du temps aussi pour qu'ils préparent des propositions face aux bénévoles. Voilà. Prendre du temps, c'est ce que font notamment par exemple, les salariés de la Confédération Paysanne. Chaque année, l'ensemble des salariés du réseau ont une journée pour discuter travail entre eux, hein, en dehors des syndicats. Et après, au moment de l'Assemblée Générale, ben, ils ont un moment où ils peuvent parler à l'ensemble de des élus de leur réseau. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Après, ils ont mis en place d'autres dispositifs voilà, de médiation, d'intervention quand il y a du conflit du travail. Parce que le monde associatif, même si c'est un monde voilà, qui est engagé et tout, c'est quand même un monde du travail comme les autres. On y retrouve tous les problèmes qu'il y a dans le monde du travail. Hein. Des
la
conflits,
conflictualité, ouais.
Voilà, parfois des trucs plus graves hein, comme du harcèlement. Et du coup, faut pas le nier. Il faut le prendre en compte et il faut s'en occuper parce qu'on a les mondes associatifs a des valeurs plus fortes. Donc du coup, il doit les mettre en pratique.
On revient à la question de départ. Est-ce que le DLA, le dispositif local d'accompagnement, est un outil qui peut être pertinent justement pour installer un temps de dialogue au sein des associations sur les questions de qualité de vie au travail?
Oui, tout à fait. Le DLA, ça marche. Mais avoir quelqu'un qui vient dans l'association, qui jette un œil sur le modèle économique, sur le projet, sur l'organisation, qui donne voilà, des conseils pour mettre en place des petits outils de gestion, des trucs tout bêtes, hein. Par exemple qu'un salarié ait une fiche de poste, ou qu'il y a un organigramme, qu'on sache qui fait quoi. Enfin voilà, c'est des choses un peu basiques, mais qui ne sont pas toujours présentes dans les associations, puis dans les entreprises aussi d'ailleurs. Mais... donc oui, faire un DLA, ça peut être une solution, mais attention, ce n'est pas magique, parce que ça demande du travail. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se rassembler, il faut avoir envie d'échanger là-dessus, de trouver des solutions. Et c'est pas magique, mais si on a envie de le prendre en main, ça peut marcher.
Au moment où on parle, là, mercredi 11 octobre, vous vous apprêtez à évoquer ces sujets en compagnie d'une autre chercheuse, elle bretonne, Véronique Dauba-Letourneux, c'est son nom, elle a étudié les accidents du travail, elle a déjà été l'invitée d'une autre émission sur les ondes de Canal B. Les accidents du travail, donc, j'imagine notamment en milieu associatif. On retrouvera aussi lors de cette rencontre le mouvement associatif de Bretagne qui regroupe 17 coordinations et fédérations pour plus de 45 000 associations affiliées. Il va y avoir du monde à vous écouter. Est-ce que c'est facile, lorsque vous présentez vos travaux, pour ces acteurs du monde associatif de se remettre en question? Les constats sont partagés.
Alors, moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que les gens sont contents de trouver un endroit pour en parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'interviens de manière assez courte et après, il y a des débats, il y a des témoignages, aussi bien de la part des salariés que des employeurs. Hein, et chacun explique, voilà, parce que moi, je suis sociologue, je suis là pour accuser personne. Et puis d'ailleurs, souvent, pendant les débats, personne n'accuse personne. Chacun comprend, en fait, les difficultés de l'autre. Et déjà, c'est la première chose à faire pour ensuite chercher des solutions. Et c'est sûr que c'est pas simple.
Je vous représente, Simon Cotin-Marx. Vous êtes donc à la fois sociologue, enseignant-chercheur du côté de Paris et chercheur associé au laboratoire technique, territoire et société de Paris-Est. Et vous êtes l'un des invités de cette rencontre organisée à la Maison des sciences de l'homme en Bretagne en ce mois d'octobre. Travailler dans l'associatif à vos risques et plaisirs, ce sera le sujet des discussions. Un échange qui sera disponible en podcast dans les semaines à venir sur le site mshb.fr. Merci beaucoup.
Merci.
It's not my fault. I was raised by open mouths and teary eyes, passive wistful lullabies. I found my worth in this world by proving I'm a special girl time and time again. Sweet, sweet irony. Could not care less if you love me, but hate me first, yeah, make me work, that's perfect. Baby, I'm a funny thing. I'm walking if it doesn't sting. A heartbreak only means that it was worth it. Oh, I think I was doomed before I began. Sorry, I just know the way that I am. Oh, wow. Thank you. So this is it now. 24, I still count everyone I kiss. The bitter ones still taste the best. Talk and tap to find a crack. Prize open till my nails turn black. Time and time again. Sweet, sweet irony. Could not care less if you love me. But hate me first, yeah, make me work, that's perfect. Maybe I'm a funny thing. I'm walking if it doesn't sting. Heartbreak only means that it was worth it. Oh, I think I was doomed before I began. Sorry, I just know the way that I am.
Dodie Clark et son titre Special Girl sur Canal B. Dodie Clark qui est britannique et qui a sorti un album en 2021, son titre Build a Problem, sur lequel vous pouvez retrouver ce morceau. C'était le premier disque autoproduit de Dodie qui, elle, a commencé à partager ses compositions et sa musique au départ sur le web. Vous êtes toujours dans l'émission d'info locale de Canal B qui s'appelle donc L'Arène et qui se termine, c'est une tradition, chaque jour sur une recommandation. On termine donc avec la recommandation du jour, à chaque fois des conseils de choses à lire, à écouter, à voir ou à vivre. Là, on est plutôt sur un volet formation pour ceux et celles qui cherchent leur voie ou souhaitent se réorienter. Samedi 14 octobre, 36 établissements de formation de la Croix-Rouge française ouvrent leurs portes en France. Ces établissements, ils sont regroupés au sein d'une filière plutôt récente, la Croix-Rouge Compétences, qui a été lancée en 2022. Les portes ouvertes de samedi, elles sont organisées pour un public curieux de découvrir les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux, un champ qui comprend plus de 30 métiers, on en cite quelques-uns, infirmiers, aides-soignants évidemment, mais on y retrouve aussi les auxiliaires de puériculture, des masseurs kinésithérapeutes ou encore des éducateurs spécialisés. Les participants aux portes ouvertes, samedi, ils pourront aussi poser leurs questions aux formateurs et étudiants en cours de cursus, visiter les lieux aussi et pourquoi pas tester certains équipements techniques innovants comme des exosquelettes. À Rennes, les portes ouvertes, elles ont lieu samedi de 9h30 à 12h30. Rendez-vous au 10 rue André et Yvonne Meignier pour des visites guidées, des rencontres et puis une conférence sur les aides-soignants à 10h et 11h. Aides-soignants, un métier qui est proposé sur le site de Rennes en formation initiale et en apprentissage. Les inscriptions sont conseillées pour participer à cet événement. Rendez-vous sur le site internet compétences.croix-rouge.fr. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.